Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Félix-Antoine Tshisekedi s'exprime ce soir devant la tribune des Nations Unies. C'est en marge de la 79e Assemblée Générale de l'ONU. Hier, il a échangé notamment avec le secrétaire général de l'ONU au menu la situation dans l'Est de la RDC et des efforts de paix régionaux en cours. Province de la Tshopo, calvaire pour les usagers de la route Kisangani, Ituri et Beni. Cette route est en mauvais état, du coup les véhicules mettent plus de temps que prévu pour arriver à destination, les conducteurs et les passagers s'en plaignent. Et puis, insécurité, manque d'électricité, difficulté des moyens de communication, tout ceci freine l'émergence économique de l'Ituri, constat du président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Christophe Lonema, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de New York où séjourne le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la RDC s'exprime ce soir devant la tribune des Nations Unies. Hier, en marge de la 79e Assemblée Générale de l'ONU, le chef de l'État congolais a eu plusieurs échanges, notamment avec ses homologues de la Serbie et de la Pologne, mais aussi avec le secrétaire général de l'ONU et le philanthrope Bill Gates. Le condensé de ces rencontres avec vous, Blaise Shindani Kambala.
Avec le secrétaire général des Nations Unies, les discussions ont porté sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et des efforts des pays régionaux en cours. Antonio Guterres a réitéré le soutien des Nations Unies aux initiatives des pays régionales. Dans son rencontre avec le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates, il a été question de l'évaluation de la situation sanitaire en RDC, mais aussi le soutien au système éducatif du pays, rapporte la présidence de la RDC. D'après la même source, le président Tshisekedi a évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun entre la RDC, la Serbie et la Pologne. D'une manière particulière, le président Tshisekedi et son homologue polonais Andrzej Duda ont parlé des perspectives des partenariats dans les domaines de la digitalisation, de la transformation numérique et sur la coopération dans les domaines de la défense axée sur la surveillance des frontières.
Sachez que le discours du président Tshisekedi est à suivre en direct ce soir en FM et sur les plateformes digitales de votre radio. Crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé hier mardi à ce sujet avec le caucus des députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tshopo. De retour de l'Afrique du Sud, Vital Kamerhe leur fait part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Cette rencontre est ainsi organisée après le boycott par les députés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu de la plénière prorogeant l'état de siège et cela sans débat préalable. Michel Kifindangoy.
S'opposant à la prorogation de l'état de siège sans débat, les députés de l'Ituri Nord et Sud Kivu ont qualifié cet acte de haute trahison et ont menacé de quitter définitivement l'Assemblée nationale afin de décider ailleurs du sort de leur peuple si dans l'avenir ils n'étaient pas écoutés. Ayant appris la tension observée alors qu'ils séjournaient en Afrique du Sud, le président Vital Kamerhe a invité le caucus des députés de ces trois provinces à la vigilance et à la retenue.
Au parc et par notre déclaration, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions.
Le speaker de la Chambre basse du Parlement a réitéré sa promesse de tenir dans le plus bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Vital Kamerhe a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables pour l'intérêt de la nation et du peuple congolais.
Notez qu'avec les députés de la Tshopo, le président de l'Assemblée nationale a donné des directives sur les matières qui devront faire l'objet des termes de référence en préparation du forum sur la paix dans la Tshopo en proie au conflit terrien entre les Mbole et les Lingola. Par ailleurs, le nouvel ambassadeur de France en RDC a échangé hier avec les présidents des deux chambres du Parlement. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a passé en revue les priorités de cette institution avec Rémi Maréchaux, alors que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est élargi sur la coopération avec le Parlement français. S'est confiant à la presse au terme de cette audience, l'ambassadeur de France a réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Rémi Maréchaux est au micro de Michel Kifindangoy.
Je viens d'arriver en République démocratique du Congo. J'ai présenté mes lettres de créance au chef de l'État jeudi dernier. Et maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc, je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir.
Notez que par la même occasion, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC a remis à Vital Kamerhe l'invitation de son homologue français Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale de la France. Dans l'actualité aussi, les principaux partis politiques de l'opposition en RDC demandent la libération de Seth Kikuni et d'autres acteurs incarcérés pour leurs opinions sur ordre, disent-ils, du régime actuel. Dans une déclaration rendue publique mardi, ces opposants attirent l'attention de la communauté africaine et internationale sur les dérives autoritaires qu'ils attribuent au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Plus de détails avec Ronéline Tibonera.
L'arrestation de Seth Kikuni, suivie de son incarcération dans les locaux des services de renseignement, la détention de Jean-Marc Kabound et Mike Mukebai, ainsi que deux activistes pro-démocratie, Jacques Sinzaira et Gloire Sassita, sont parmi les faits reprochés au régime de Félix Tshisekedi. Pour l'opposition, les signaux sont au rouge. Le régime actuel tend à instaurer un régime à pensée unique et qui vise à museler l'opposition, indique-t-elle dans sa déclaration. L'opposition regrette qu'aujourd'hui que les services de sécurité, à savoir la DEMI, MIAP et l'ANER soient utilisés à des fins de répression politique, traitement inhumain et dégradant et dont les auteurs ne sont pas jugés. Exprimant un besoin de justice et rappelant la nécessité du respect des droits et libertés citoyens, l'opposition plaide pour un rejet de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité des droits de l'homme de l'ONU pour la contraindre à revoir sa politique en matière de respect des droits humains. Cette sortie médiatique de l'opposition intervient alors que se déroule à New York la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU d'où va s'exprimer ce mercredi le président Félix Tshisekedi.
Je vous le disais en titre, dans la province de la Tshopo, les passagers des véhicules qui effectuent le trafic sur la nationale numéro 4, route Kisangani-Ituri et Beni, vivent un véritable calvaire. En cause, le mauvais état de cette route d'importance socio-économique capitale. Les véhicules mettent plus de temps que prévu pour arriver à destination. Les conducteurs des véhicules et les passagers s'en plaignent. Ils s'interrogent sur la destination des milliers de dollars que paye chaque véhicule en partance ou en provenance des provinces ou des pays voisins. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Emprunter la nationale numéro 4, la route de l'Ituri et Oudi Nord-Kivu, c'est faire le chemin de la croix. En effet, de grands bourbiers parsèment la chaussée à bien des endroits, ce qui contraint les véhicules au stationnement pendant plusieurs jours, sinon des semaines. Pour en sortir, d'énormes efforts ou l'intervention d'autres compagnons des routes sont requis. Les points chauds sont localisés notamment au point kilométrique 170, 180, 186, 202 et 205. À ce dernier point, un gros camion plein de marchandises s'est renversée à la descente. La veille, un autre grand véhicule et une remorque s'étaient embourbés dans de grands trous qui se créent au fil de passage de ces engins lourds. Cette situation occasionne le blocage des véhicules dont les fils s'étendent même jusqu'à 5 km. Entre 170 et 202 km, au moins 500 véhicules étaient en attente de passage jeudi dernier. Parmi eux, de nombreux camions-citernes, des bus de transport en commun, ainsi que des véhicules de marchandises, dont des produits alimentaires et des produits manufacturé. Alors que le ministre des ITP avait posé la première pierre pour l'asphaltage de cette route, malheureusement, le début des travaux se fait toujours attendre. De retour de la RN4, Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, la fourniture irrégulière en électricité dans la ville de Bounia perturbe la vie des habitants. C'est le cas des étudiants qui peinent à rédiger leurs travaux de fin d'études. Certains éprouvent des difficultés à finaliser leurs recherches, à cuisiner ou même à réviser leurs notes. D'autres déplorent la faible qualité du courant électrique, souvent instable ou qui n'est desservi qu'à des heures tardives de la nuit. Reportage signé Ezekiel Mousalia.
Il est rare de voir des ampoules des auditoires ou des hommes pour étudiants du campus de l'université de Bounia Unibou rester allumés plus de 30 minutes. Que ce soit pour étudier ou pour repasser leurs vêtements, les étudiants souffrent constamment des coupures des courants. Fiston Adjolorot, porte-parole des étudiants de l'Unibou.
On a fait des plaidoiries auprès des autorités. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours sans suite. Je ne sais pas si on veut qu'on puisse initier une action concrète, soit de barricader le boulevard pour réclamer ne fût-ce que le courant. Je demanderai au gouverneur de s'impliquer dans cette situation pour un peu nous soulager, nous les étudiants. Quand vous faites des tours dans la ville ici la nuit, la ville est sombre, vraiment sombre, ce qui peut occasionner des vols à main armée.
Les étudiants résidant sur les campus ne sont pas les seuls à endurer cette situation. Ceux qui vivent dans le quartier de la ville où l'électricité est presque inexistante partagent le même calvaire. Lumbabo Bungamuzi habite au quartier Opas à Bounia.
On travaille toute la journée, nous rentrons aussi soir. Vous voyez avec la situation de la sécurité. Un jour, je suis croisé avec les agents de sécurité. On m'a demandé ce monsieur, vous venez d'où? J'ai dit non, je suis un étudiant. Vous pouvez me donner votre carte, je vais donner la carte. Ça m'a fait d'abord peur.
Ils appellent le gouvernement à exercer des pressions sur les sociétés Sokimo Green Tech, chargées de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana, afin d'améliorer l'approvisionnement en électricité. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, outre les minerais, le territoire de Walikale dispose d'énormes potentialités hydrauliques capables de produire et fournir de l'énergie électrique à toute la province du Nord Kivu. Un député provincial honoraire qui le dit invite le gouvernement et d'autres partenaires à investir dans ce secteur en vue de booster le développement en soutenant l'entrepreneuriat local. Denise Lukeso.
Ces vastes territoires de la province, enclavés, régorgés d'innombrables chutes d'eau, capables de produire jusqu'à 12 MW selon les techniciens. Mais seulement voilà, le territoire de Walikale n'est toujours pas électrifié et malgré toutes les potentialités dont il dispose, Walikale reste sous-développé. Prince Kihangi, député provincial honoraire de Walikale, invite les investisseurs à s'intéresser à cette partie de la province du Nord Kivu.
C'est le cas de la rivière Uliru, avec une capacité de plus ou moins 11,5 MW. La rivière Loa, capable de produire près de 5 MW. La chute Nyabingula, avec une capacité de près d'un mégawatt. La chute Mouissembe, avec une capacité de près de 5 MW. La rivière Lubérique, avec une capacité de près de 2 MW. La rivière Luka, avec une capacité de près de 5 MW. La rivière Osokari, avec une capacité de près de 2 MW. Que donc si le gouvernement et des partenaires investissaient dans ces secteurs-là, ça va booster le développement local et on va devoir assister à un boom économique dans le territoire de Walikale.
Signalons que l'agriculture est aussi pratiquée dans Walikale, mais par manque d'infrastructures, elle ne participe pas au développement du territoire. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
La désinformation, ce fléau du 21e siècle aux nombreuses conséquences. Le 24 septembre 2016, cela fait 8 ans depuis qu'une folle partie du quartier Païda de la ville de Beni poussait des centaines de personnes dans les rues sans aucune vérification de la source. Mais qu'est-ce qu'il fuyait exactement? Une présumée attaque des rebelles des EDF. Dans cette débandade, il y eut une vingtaine de morts. Retour sur les faits avec Sadiq Aboubakar.
Ces jours-là, 24 septembre 2016, à la suite d'une folle rumeur faisant état d'une attaque des ADF à Rwangoma, des mouvements spontanés des personnes commencèrent vers midi. De l'est à l'ouest, d'un quartier à un autre, les gens se déportaient jusqu'au centre-ville. Mais personne pour se demander ce qui se passait. Sous une forte pluie, tout le monde avait pris la direction ouest de la ville jusqu'à atteindre Mangina, soit 30 km à pied. Trésor Kapepela, un journaliste de Beni, raconte.
Alors, partout là où ils arrivaient, le seul message qu'ils propageaient, c'était de dire que des ADF viennent de tuer plusieurs personnes dans les quartiers Rwangoma et qu'il y avait des cadavres partout. En termes de bilan, d'autres sources parleront de 15 morts, mais les quelques enquêtes que j'ai menées m'ont amené jusqu'à une vingtaine de morts.
La désinformation tue, rappelle Jean-Tobi Okala, le chef des communications stratégiques et de l'information publique de la Monisco Beni.
Nous demandons aux gens de faire très attention avec ce qu'ils diffusent comme information parce qu'il y a des vies qui sont en danger. La désinformation, c'est le poison qui tue la société moderne.
Il faut toujours prendre soin de vérifier une une information avant de la partager, ajoute-t-il. Beni Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan du Sud. Un bus a été pris en embuscade lundi à environ 40 km au sud de la capitale Djouba. Les 44 passagers qui se rendaient en Ouganda ont été attaqués par des hommes armés qui ont ouvert le feu sur le véhicule. L'attaque a entraîné la mort d'une personne de nationalité ougandaise et a fait 8 blessés. Selon l'armée sud-soudanaise, entre 7 et 14 passagers ont été kidnappés et le groupe rebelle NAS, non signataire de l'accord de paix de 2018, est accusé d'être à l'origine de cette agression. En Tunisie, les avocats et les familles des opposants tunisiens emprisonnés demandent à la Cour pénale internationale d'enquêter sur la répression de l'opposition politique et sur les mauvais traitements infligés aux migrants d'Afrique noire dans ce pays d'Afrique du Nord qui s'est vu offrir un soutien financier de l'Union européenne pour l'aider à freiner l'immigration.
L'invité.
L'insécurité, le manque d'électricité et les difficultés récurrentes des moyens de télécommunication freinent l'émergence économique de l'Ituri. Christophe Lonema, président provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC, plaide pour le rétablissement de la paix en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces étroitement liées par des échanges commerciaux. Il s'entretient à ce sujet avec Martial Papimukeba.
Christophe Lonema, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quel défi économique l'Ituri rencontre-t-il et comment la FEC y répond-elle?
Le premier défi, c'est les routes nationales. Je cite RNV7, c'est la grande route nationale de Goli jusqu'à Komanda, à traversant par la ville de Bounia. Cette route est encore dans un état de délabrement avancé et c'est cela qui bloque la bonne circulation car c'est cette route qui alimente la ville de Bounia et les provinces voisines. En deuxième lieu, nous citons les problèmes énergétiques. Nous avons un problème sérieux de l'électricité ici à la ville de Bounia. S'il y avait le courant, ça pouvait favoriser même le fonctionnement des usines, des petites usines ici au niveau de la ville de Bounia. Mais le courant pose vraiment problème. Et à troisième lieu, il y a question des barrières. Il y a des barrières à l'entrée de la ville de Bounia où se grèvent certains services pour percevoir auprès des opérateurs économiques.
Vous parlez des barrières illégales.
Trop de barrières illégales, il y a aussi des barrières qui sont érigées à l'entrée de la ville, là où se trouvent les services de l'État, qui perçoivent certaines taxes. Mais à part ça, les routes là de certes agricoles, là il y a plus de barrières, pas moyen d'évacuer les marchandises de centre-ville à l'intérieur.
Et comment la FEC collabore-t-elle avec les autorités pour soutenir l'émergence de l'Ituri?
La FEC est en très bonne collaboration avec les autorités. Nous sommes en train de plaider pour que l'économie de l'Ituri aille de l'avant. C'est ça notre souci majeur. Alors, il y a des stratégies qu'on est en train de monter avec les autorités provinciales pour que nous puissions quand même émerger comme les autres provinces.
Qu'est-ce que vous faites réellement comme action concrète en tant que FEC?
Il y a une organisation qu'on a fait avec le gouvernement provincial pour qu'il y ait asphaltage de la ville de Bounia avec l'entreprise Safricas. C'est aussi la contribution de la FEC.
Et donc c'est un partenariat public-privé, l'asphaltage de la ville de Bounia.
Voilà, c'est un partenariat public-privé.
Par là de l'émergence toujours de l'Ituri, quelle initiative la FEC met-elle en place pour promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes dans la province?
Nous avons essayé d'organiser les femmes au sein de la FEC dans le secteur femmes entrepreneurs. Et ce sont les femmes qui se débrouillent, ce sont des femmes qui ont leurs activités, une quarantaine de femmes. Nous les avons regroupées au sein de la FEC pour qu'ils soient encadrés. Il y a des femmes qui produisent des savons, il y a des femmes qui fabriquent aussi farine de maïs associée avec les farines de soja. Et elles sont nombreuses. Chacune a ses attributions, mais elles sont quand même regroupées au sein de la FEC dans le secteur des femmes entrepreneurs. Et d'ici là, je crois que nous allons lancer aussi les jeunes entrepreneurs, parce qu'il y a aussi des trop jeunes qui se démènent, qui se débrouillent ici, ils sont des commerçants, ils sont des petits commerçants, qui se débrouillent. Nous cherchons aussi à les regrouper au sein de la FEC pour qu'ils puissent être encadrés et promouvoir aussi leurs activités.
Quelle attente la FEC a-t-elle vis-à-vis du gouvernement pour l'Ituri?
Si on peut déclarer l'Ituri et le Nord Kivu comme deux provinces sinistrées, compte tenu des nombreuses guerres qui se sont succédées sur ces deux provinces, l'Ituri est liée au Nord Kivu. Si vous voyez la route RN4 ça transite Kisangani à passer par l'Ituri et au Nord Kivu. Il y a les échanges commerciaux permanents qui se faisaient entre l'Ituri et Nord Kivu cette fois-ci, compte tenu de ces problèmes des ADF, des groupes armés là, MV3. Alors, toutes ces routes sont devenues presque impraticables. Maintenant, les commerçants souffrent. Si vous voulez voir le Nord Kivu, il faut prendre l'avion. Pas moyen d'aller par la route, ça devient très compliqué. La situation n'est pas si bonne. Il faut rétablir la sécurité au Nord Kivu et à Ituri. Et aussi, diminuer sensiblement le taux de certaines taxes auprès des opérateurs économiques, que le gouvernement puisse éradiquer les phénomènes groupes armés qui endeuillent les jours au jour la province est surtout de l'Ituri, parce qu'au Nord Kivu, là, il y a des groupes armés étrangers, mais à Ituri, ce sont les fils de l'Ituri qui sont aussi dans ces affaires-là de tuerie. Si le gouvernement pouvait éradiquer ces phénomènes de groupes armés, il faut rétablir la sécurité au Nord Kivu et à Ituri.
Christophe Lonema, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri, répondait aux questions de Martial Papi Mukeba. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, sous la supervision de Martin Sebujangwe, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.